ma part. Je suis très heureux de commencer cette année avec cette exposition et avec Michel Poitevin. Cette exposition est, vous le comprendrez, très importante pour le musée. Il s'agit d'une exposition qui est faite en collaboration avec la DIAF, l'Association pour la diffusion internationale de l'art français, dont Michel vous dira quelques mots, et qui parle du regard de collectionneurs privés sur l'art de leur temps, dans un segment qu'on a défini et qui va de 2001, je crois, jusqu'à 2019, à peu près. Et il est important pour nous parce qu'on est dans la maison d'un collectionneur privé, Yvon Lambert. Et donc il était important d'aller regarder au même moment ce que d'autres collectionneurs privés avaient regardé, avaient acheté, avaient défendu, en dehors des circuits publics traditionnellement connus par les visiteurs. Et il était important aussi du coup d'aller regarder qui étaient, à travers les œuvres, ces collectionneurs. Puisque les collectionneurs en France, et peut-être que Michel en dira quelques mots, ne sont pas des gens qui se montrent comme aux États-Unis ou dans des grands pays anglo-saxons. Il y a toute une, on pourrait dresser toute une histoire de ce concept-là. Et c'était important de montrer aux gens que les collectionneurs étaient des personnes comme eux, en fait, qui avaient une passion particulière, qui était de s'intéresser à l'art de leur temps. Et moi, j'en déduisais que c'était des gens qui s'intéressaient particulièrement au monde contemporain et à leur monde, et à ce qu'ils vivaient dans ce monde-là et comment ils y étaient attachés. Et donc ça a été un cadeau absolument fabuleux que nous ont fait la DIAF et Michel Poitevin en premier, de nous proposer de pouvoir regarder dans les collections de plus de 80 collectionneurs ce qui était leur choix favori, et de pouvoir imaginer qu'à travers ces choix, on arriverait à dresser une parmi d'autres histoire de l'art contemporain des 20 dernières années. Et moi j'étais persuadé qu'on arriverait à dresser peut-être une partie de notre histoire commune à tous à travers ces œuvres-là, dans le sens où je pique toujours cette phrase à Nicolas Bourriaud, mais je ne la ferai pas de texto, mais quand il dit que l'art, c'est vraiment des objets sensibles qui, par des formes ou d'autres, représentent nos rapports au monde, je crois que fatalement, quand on est face à des œuvres, on est face à nous-mêmes et à ce qu'on vit. Et du coup, ce début de siècle a été extrêmement important. Alors, il a été important pour moi parce que c'est mes 20 premières années dans l'art, parce que j'ai 40 ans aujourd'hui, donc ça a été mes 20 années où j'ai choisi ce que je pouvais regarder dans l'art. Et puis c'était un siècle où, souvenez-vous, de 98, 99, 2000, on a été obligé de dresser le bilan de ce qui nous était arrivé, ou ce qui était arrivé à nos pères, nos parents, pendant 100 ans assez complexe. Et on avait tous peur d'un bug imminent qui allait réduire à néant tout ce qu'on était. Et on était obligé de rentrer dans un siècle avec un bilan forcé et avec... comme ça, une espèce d'injonction de devoir inventer un futur meilleur. Arrivé en 2020, je ne sais pas si on l'a fait, mais en tout cas, on a vécu ces 20 premières années à la fois excitantes, compliquées, dans lesquelles on s'est plus ou moins retrouvés. Et les artistes nous dressent un peu cet état de fait. Et j'ai particulièrement aimé pouvoir avoir accès à toutes ces choses-là. Donc je laisse la parole, et c'est la première fois de ce cycle, à un collectionneur. Donc sur un plan anthropologique, voici un collectionneur d'art de son temps, passionné. Et je lui laisse vous raconter l'aventure de la DIAF, du prix Marcel Duchamp, et puis ce qu'il aura envie de vous raconter sur son rapport à la collection et à l'art contemporain.
Merci Stéphane. Donc, comme il a dit, je m'appelle Michel Poitevin. Merci de votre présence. Meilleurs voeux pour 2020, que nous puissions voir ensemble de très belles expositions et une création toujours aussi dynamique et énergique. Alors, commençons par le thème central, c'est collectionneur. Jusqu'à il y a quelques années, j'étais Michel Poitevin professionnel. Maintenant, je suis Michel Poitevin retraité et souvent Michel Poitevin collectionneur. Alors, j'avoue que souvent ce mot m'ennuie un peu, pour ne dire autre chose, parce que ça n'a pas beaucoup de sens et ça recouvre tellement de situations qu'on va essayer de voir ensemble. Mais je vais d'abord vous expliquer moi ce que je suis en tant que collectionneur. Je pense que dans quelques semaines, il y en aura un autre, Daniel Bosser, qui vous expliquera ce qu'il est. Il est différent de moi, même si on a une grande amitié l'un pour l'autre, mais il ne collectionne pas tout à fait comme moi et moi pas tout à fait comme lui. Alors moi, je suis un provincial, comme certainement beaucoup d'entre vous, et Avec la DIAF, le mot provincial est un élément que j'ai toujours privilégié. Et vous verrez que toutes les expositions de leur temps ont toujours été réalisées en région, hein, jamais à Paris. Le prix Marcel Duchamp, lui, a été le plus souvent à Paris, même si on a réussi à le décentraliser à une certaine époque. Mais moi, je suis un provincial et j'ai habité 43 ans à Lille. Ne pleurez pas, c'est une ville très agréable, même s'il pleut souvent. Mais je suis revenu là où je suis né, où mon père en particulier est né. Et donc aujourd'hui, nous habitons de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la Durance, en Provence. Alors, mon début, il est lointain. Je pense que la première œuvre, j'oserais pas vous la montrer, que j'ai acquise, ce devait être en 75 ou en 76. J'ai commencé à regarder de l'art contemporain à Valence, où j'ai passé mon adolescence, et les Sanguines d'Hubert Robert, qui était la pièce majeure à l'époque du musée de Valence. Et j'ai commencé à regarder, à aimer, à rejeter, à reprendre. Et puis un jour, j'ai eu quelques argent, je travaillais, j'ai pu économiser un peu, j'ai acheté un tableau. Puis j'en ai acheté d'autres, ainsi de suite. Mais la collection, je dirais, démarre en 80-82. Et cet après-midi, avec ma fille qui est là, on manipulait une pièce de Reynaud, pas Jean-Pierre, le prénom de Reynaud. Jean-Pierre Reynaud, oui, oui, c'est pas l'autre, hein, Jean-Pierre Reynaud. Et c'est une pièce que j'ai achetée en 80 ou 82. Et c'était la première pièce lourde, volumineuse, importante, qui occupait de l'espace, comme dirait ma femme, un encombrement, que j'ai acheté. Et c'est le début de toute une série. La deuxième grande étape, bah, je l'ai mise à l'écran, c'est Passion privée. Alors, vous vous souvenez peut-être pas, parce que ça date de 1995. Le seul élément commun avec aujourd'hui, c'est qu'il y avait une grève de la SNCF et de tout. Donc, il y avait 25 ans après, le monde n'a pas beaucoup changé. Et donc, Suzanne Paget, qui était conservatrice, faisait beaucoup de soucis. Et puis, les dates ont été reportées de 15 jours, si je me souviens. Mais pour moi, provincial, la passion privée a été un élément formidable. D'abord parce qu'il m'a montré qu'il y avait des gens comme moi qui habitaient Carcassonne, qui habitaient Toulouse, qui habitaient Lyon, qui habitaient Paris, il y en avait des quantités, mais qui avaient la même ardeur, la même intérêt à découvrir, à rassembler quelque argent pour acquérir des œuvres. Alors, j'ai découpé, je vous montrerai des images après, j'ai découpé dans le catalogue le texte introductif de Suzanne Paget, et où elle dit « Le premier constat concerne l'existence bien réelle de collectionneurs en France. » Parce qu'à l'époque, on disait « Il n'y a pas de collectionneurs en France. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, mais en France, il n'y en a pas. Nous avons visité effectivement plus de 300 vraies collections. » Lui demander ce que ça veut dire vraie collection, mais enfin, elle l'écrit. À Paris surtout, mais en province, Bordeaux, Strasbourg, Lille, tout ça. C'est d'ailleurs ce nombre un peu inattendu qui, en soi, nous a amené à transformer cet hommage aux collectionneurs en un manifeste dédiant tout le musée à un hommage à la passion, et donc de passion privée. Quelques 92 d'entre eux ont été retenus. Une sélection obligée se fondant sans doute sur des critères esthétiques qui seraient faux de nier, à moins de tricher avec ce que nous sommes, à titre individuel. En gros, elle dit qu'elle les a choisis parce que ces 92 collectionnaient ce qu'elle aimait bien. Et ceux qui collectionnaient autre chose, ben, n'ont pas été sélectionnés. Alors j'ai eu cette immense chance d'être sélectionné et un jour me retrouver plongé dans ce grand bâtiment qui est le musée d'art moderne de la ville de Paris. La collection commençait, l'exposition Passion privée commençait avec des œuvres du début du XXe siècle. Nous étions encore au XXe siècle, du début du XXe siècle. Je me souviens d'un Van Gogh qui se révélera être un faux quelques années après, mais enfin, ça faisait chic de commencer par un Van Gogh. Et puis, peu à peu, on montait, pour aller, année après année, retrouver les années 90, là. Et moi, j'étais dans cette partie-là. Il y avait Raymond Azibert de Carcassonne, Daniel Bosser, je l'ai déjà cité, Antoine de Galbert, enfin, plein de gens qui sont devenus ensuite des amis et qui m'ont permis de me dire que bah, je n'étais pas aussi, aussi niais de m'intéresser à cette forme artistique que certains de mes relations me le disaient. Hein, ce n'était pas tout à fait la pièce de théâtre de, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, où les tableaux blancs sont considérés comme inexistants. Page blanche. Alors, je vous ai dit que j'ai préparé des... Si je trouve comment ça marche. Voilà. Alors, j'ai repris ça à la fois parce qu'il y a une œuvre, mais surtout pour un homme qui s'appelle François Trèves, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qui était un homme charmant, grand collectionneur, qui a été longtemps et un très important président des Amis de Pompidou. Et vraiment, c'est quelqu'un, comme j'ai retrouvé ça sur Internet, je me suis dit, eh bien, s'il m'écoute, il verra que je pense encore à lui. Alors là, vous la reconnaissez. Je pense que c'est quelqu'un qui a été parmi les personnes les plus importantes au niveau de l'art contemporain, Suzanne Paget. Elle a quitté le monde du public à sa retraite et elle est allée se blottir dans le bâtiment de Franck Guéry pour la fondation Huitton. Et elle a monté des expositions que certains d'entre vous ont peut-être vues, Basquiat, ou peut-être ce qui m'a touché le plus, l'exposition de ce collectionneur russe dont j'oublie le nom.
Chez Tchouchkine,
merci, qui était c'est merveilleuse. Donc voilà. Alors, j'ai mis aussi ça. C'était l'une des pièces que j'avais prêtées, qui est un Fabrice Hibert que j'avais prêté dans cette exposition. La deuxième grande étape, elle se passe quelques un ou deux ans après, c'est de rencontrer Gilles Fuchs. Alors, Gilles Fuchs, c'est le président de la DIAF, c'est le président inamovible de la DIAF depuis 1996. Je me moque souvent de lui à ce sujet, mais il a fait de la DIAF quelque chose de très important. Alors on s'est rencontrés en 98 et à partir de 99, on a commencé à travailler, on était 4 ou 5, pour essayer de construire un prix. Et c'était très simple. Il fallait faire la copie stricte de ce qu'était le Turner Prize. Donc une première sélection de 4 œuvres et puis ensuite un choix parmi les 4 qui étaient montrés dans un musée, le choix parmi les 4 de celui qui sera le prix de l'année. Alors, première grande discussion, au niveau de l'organisation, ça n'a posé aucun problème puisque c'était le Turner Prize. Mais là où il y a eu une discussion, c'est au niveau du nom. Le premier nom qui avait été choisi, c'est Cézanne. Le prix Cézanne, qui était pas mal, sauf que quelqu'un a dit, je crois que c'est Daniel Templon, a dit, mais c'est le 19e siècle. Vous voulez faire un prix du 19e siècle ou du 21e siècle? Donc, dixit la fin de Cézanne. Puis Matisse est apparu, mais les héritiers de Matisse étaient très, très ennuyeux, très embêtants sur l'utilisation du nom, de la façon dont on pouvait le mettre en avant. Et donc, fini Matisse. Et puis quelqu'un a pensé à un homme qui était devenu américain, mais ce n'était pas très grave, il était né à Rouen, Marcel Duchamp. Le voilà. Et donc, très rapidement, tout le monde s'est mis d'accord sur Marcel Duchamp. Les héritiers de Marcel Duchamp étaient très heureux. C'était une dame qui s'appelle Jacqueline Matisse-Monnier, qui avait des liens avec Matisse à travers son mariage, mais qui était l'héritière de Duchamp. Et donc, moyennant 30 ou 300 euros, je crois, on pouvait utiliser dans tous les sens le nom de Marcel Duchamp et les dessins qu'il avait faits. Et donc, le premier prix Marcel Duchamp, non, c'est pas ça, je l'ai pas mis, c'était un Hirschhorn. C'était un Hirschhorn, m'avait semblé l'avoir mis. Et donc, on a démarré les prix. Le premier, donc Hirschhorn, le deuxième, déjà la parité, mais ce n'était pas pour ça, c'était Dominique Gonzalez-Foster. Et le troisième, un très jeune artiste, Mathieu Mercier. Donc, ça a démarré. Mais pour moi, l'inconvénient, si on voulait développer une association qui soit nombreuse et puissante, nombreuse par le nombre et puissante par l'argent qui pouvait être rassemblé, il fallait pouvoir donner un intérêt aux membres. Et cet intérêt, je l'ai puisé, si on a puisé le prix Marcel Duchamp dans le Turner Prize, j'ai fait une proposition, c'est de faire une exposition qui ressemblerait en partie à ce qu'a été Passion privée. Et donc la première, vous voyez, de leur temps, c'est un peu simpliste, ça s'est passé à Tourcoing. Alors Tourcoing, pourquoi? Parce que j'habitais Lille et que Dorothée Allemand, je la connaissais bien, et bon, ça lui permettait d'avoir une exposition au moment de Lille, capitale européenne de la culture en 2004. Et là, on a développé cette exposition. Alors, le concept avait été assez simple, c'est de dire, puisqu'on avait choisi la période triennale, j'aurais aimé que ce soit une biennale, mais c'était ingérable, c'était trop compliqué et trop lourd. Donc une triennale, c'était de dire qu'avez-vous acheté au cours des 3 années précédentes? Dites-le nous, envoyez-nous des images, envoyez-nous des informations, et là-dedans on puisera pour créer en quelque sorte ce qu'a été, ce qu'est l'œil du collectionneur. Et donc en 2004, eh bien, on a demandé ce que les gens avaient acheté en 2003, 2002 et 2001. Et les 70 collectionneurs qui nous ont répondu, c'était un début, la DIAF démarrait, eh bien, ils ont proposé 800 pièces différentes, quelque chose près. La gestion informatique ne fonctionnait pas aussi bien qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc il fallait tout recompter à la main, et donc c'est à peu près 800. On a sélectionné 180 œuvres de 154 artistes. Et on a occupé l'ensemble du musée de Tourcoing. Et donc, ça a été la première exposition. La deuxième était à Grenoble, donc 2004, 3 ans après 2007. Et là encore, on est parti sur le même principe. Il y avait 67 collectionneurs pour un total de 126 œuvres exposées et 92 artistes. C'est Guito Sato qui nous a accueillis et il nous a permis de continuer cette opération. Et là, j'ai pris au hasard une œuvre qui avait été montrée, comme je vous ai parlé de Mathieu Mercier, qui avait été pris Marcel Duchamp. C'est une pièce de Mathieu Mercier. La troisième était à Strasbourg. Alors là, c'était Joëlle Pigeaudier qui avait été pendant 20 ans conservatrice du musée de Villeneuve-d'Ascq. Donc nous nous connaissions bien. Et elle nous a permis de montrer les 10 premières années du prix Marcel Duchamp. Donc on a sélectionné tous les nommés et bien entendu les lauréats. Et donc il y avait à Strasbourg 78 collectionneurs, 43 nommés et 10 lauréats. Et donc 150 œuvres ont été exposées. Voilà Hirschhorn que je parlais, qui avait été montré comme étant le lauréat du premier prix en 2001. Puis on continue. Alors, si j'ai mis aussi ça, Boursier Mougenot, parce que c'est une pièce qui m'a toujours fait rêver, c'est une guitare sur laquelle des oiseaux viennent picorer des graines et donc jouer une musique incertaine. Et c'est une pièce de Boursier Mougenot qui avait été nommée, mais qui n'a pas eu le prix.
On a failli l'exposer au musée, celle-là. Pour une exposition en hommage à Messiaen, mais ça ne s'est jamais fait pareil.
Ensuite, et en avance, avançons vite, à Nantes, ça a été peut-être l'exposition la plus accomplie avec celle-là, mais qui était, on revenait au principe de base, 3 ans précédents, et là, c'est Blandine Chavannes qui nous a accueillis dans le hangar à bananes, qui était un hangar qui devait servir à l'arrivée des fruits exotiques. Et donc, le musée avait l'utilisation un tiers de l'année, pendant 4 mois, et donc on l'a utilisé en lieu et place du musée. Et il y avait 105 collectionneurs, on avait dépassé le cap de 100, ce qui était simplement une forme, ça n'a ni c'est positif ni c'est négatif, mais c'est comme ça. Il y a eu 1118 propositions et 152 œuvres ont été sélectionnées de 141 artistes. Alors voilà le catalogue. Vous voyez, chaque fois on change de couleur. Et deux pièces particulières, un Théo Mercier qui est un cheval, et puis un grand Philippe Cognier qui était un artiste de la région de Nantes, enfin un artiste international, mais qui habitait la région de Nantes. L'avant-dernier, c'est le numéro 5, ça se passe à Villeurbanne. Là, on essaye d'aller un peu plus loin, et vous voyez écrit là-haut le temps de l'audace et de l'engagement. J'avais fait avec le musée de Poitiers et Pascal Farassi une exposition un peu particulière qui s'appelait l'audace, si je me souviens. Quoi ? Engagement, qui s'appelait engagement, pardon. Ah, engagement, c'est vrai. Et j'oublie. Le temps passe et puis je vieillis. Et donc, on avait repris un peu ce thème de l'engagement où le collectionneur, ce n'était pas seulement un acheteur, quelqu'un qui accumulait, mais c'était aussi quelqu'un qui avait une influence sur la création artistique. Et là, ce qu'il voulait, on était... c'est donc Nathalie Hergineau. J'ai discuté avec quelqu'un qu'il a bien connu, puisqu'elle était au FRAC Champagne-Ardenne. Et donc, Nathalie Hergineau, en 98, je fais un retour en arrière, en 98, elle avait montré l'exposition de Philippe, une exposition des œuvres de Philippe Bilan. Donc, il y avait 86 collectionneurs, 133 artistes, dont 12 productions. Alors ça, c'est une pièce de, j'oublie son nom, Antonès, Éléanor Antonès, et là, c'est allé trop vite, c'est une production, c'est une boule de... C'était ma production, hein, alors je l'ai repris. Une boule de goudron qui, avec le temps, allait occuper la salle entière. Et donc, vous voyez l'artiste qui est à côté de moi, là, entre Nathalie Virginaud et moi, qui s'appelle Noémie Vulpian. Voilà. Donc, quand je montrais cette pièce, certains croyaient que je travaillais dans les travaux publics, mais ça n'a jamais été le cas. Et donc, après ça, eh bien, on se retrouve à la fin, ici. Je pense que vous avez vu l'exposition. On a voulu faire une évolution. Je vais vous lire un texte après. On a voulu faire une exposition, une évolution, en repartant sur le début du XXIe siècle et en demandant aux collectionneurs de nous prêter leur chef-d'œuvre. Alors là, le mot chef-d'œuvre que j'ai écrit a créé des états d'âme, mais les chefs-d'œuvre, c'est la Joconde, c'est les demoiselles d'Avignon. Mais pour moi, c'était de dire, qu'est-ce que vous avez, vous, qu'est-ce qui est votre chef-d'œuvre dans votre cœur, une œuvre que vous avez achetée, qui vous fait particulièrement plaisir et qui fait partie de vos œuvres majeures. Et donc, c'est ce que vous êtes censé, à 90%, retrouver dans l'exposition à côté. Donc, ce sont des œuvres qui ont été créées et acquises à partir de 2001 jusqu'au jour de l'exposition. Donc, tout est du neuf, du nouveau, du contemporain. Voilà, moi j'ai fait le tour. Alors la Dieuve continue sa vie. C'est une association qui est chère à mon cœur. J'en ai longtemps été le vice-président. Maintenant, je suis un peu fatigué et je suis pas. J'ai passé l'autre vice-président. Maintenant, c'est Claude Bonin qui est plus jeune que moi et plus ardent que moi. On verra combien de temps il tiendra. Je lui souhaite le plus longtemps possible. Je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est que nous puissions commencer un échange. Peut-être Stéphane peut l'initier. Je sais pas.
Oui, mais juste pour, il faut que les gens se rendent compte, on est dans un pays très particulier. Ce qui est la Diaf, ce qui est normal pour moi ou pour Michel, c'est une association de collectionneurs. Donc dans un pays où les collectionneurs ne se montrent pas et dans un pays où on dit que la scène artistique du pays ne se vend pas à l'étranger, que les artistes qui sortent des écoles ne sont pas tout le temps très bons. Et quand la Diaf a été créée, quand tous les projets qu'a mené Michel ont été développés, c'était vraiment une espèce de statement, d'engagement, de dire il y a en France des collectionneurs qui achètent des artistes de leur temps, ce qui est un risque considérable, hein, et affectif et financier parfois, etc., qui vous engagent et qui achètent à des galeries qui sont des vendeurs d'art. Et que finalement, cette idée de se présenter en tant qu'association de collectionneurs, en plus vous étiez combien ?
300.
300, c'est quand même ça. Ça veut dire, vous dites au monde de l'art, au marché de l'art, nous sommes 300 personnes dont la passion est d'acheter des œuvres de jeunes artistes de notre temps. Et comme on est en France, elle est globalement, à part peut-être Pinault, Arnaud et quelques-uns, Emmerich, nous achetons peut-être en priorité à des galeristes en plus qui sont autour de nous et qui sont en France. Et nous aimons les artistes que nous pouvons rencontrer, avec qui nous pouvons tisser des relations, donc peut-être français ou en tout cas vivant à côté de nous. Et donc c'était de dire, voilà, nous sommes là, nous existons. Et c'était, moi avec le recul, une bouffée d'air frais aussi pour beaucoup de galeristes de découvrir qu'il y avait réellement un marché potentiel et des gens qui étaient là pour soutenir des pratiques et pour des musées, de savoir qu'il y avait des gens qui achetaient des œuvres merveilleuses et qu'on pouvait aller les solliciter pour demander des prêts pour monter des expositions. Et quand ces gens-là sont en France, tout ça est très pragmatique, mais c'est génial. Vous demandez des œuvres qui ne sont pas très loin et dont vous pouvez assurer facilement le transport jusqu'au lieu où vous voulez les exposer. Donc ADIAF, c'est cinq lettres, mais ça, je ne suis pas le sponsor de l'ADIAF, puisque ce n'est pas des gens avec qui je travaille normalement, mais ça veut dire beaucoup depuis 20 ans dans le monde de l'art, c'est-à-dire que dans ce pays-là, ça ouvre beaucoup de champs possibles pour tous les acteurs, les galeristes, les artistes, mais aussi les institutions. Et moi, ça m'intéresse particulièrement aussi, puisque c'est venant de la collection Lambert, qui est un lieu qui abrite une collection particulière, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que de découvrir l'art à travers les yeux de quelqu'un qui aime l'art. C'est-à-dire que les musées sont des choses formidables, les collections sont montées par des conservateurs successifs, avec des comités d'acquisition, etc. Tout ça sous le grand patronage de l'État français. Mais aller découvrir l'art à travers des yeux de passionnés privés qui n'ont, j'allais dire, aucun lien avec le bien commun, qui n'ont juste que leur passion et leur amour de l'art, sans aucun risque de déplaire, ça me plaît particulièrement. Et de pouvoir arriver à trouver des gens qui sont des gens comme nous, hein, les collectionneurs français, c'est des professions libérales, des chefs d'entreprise, certains enseignants qu'on connaît qui passent tout leur argent dans des collections de jeunes artistes, qui sont obligés de regarder davantage les œuvres que les autres parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils sont obligés d'essayer de trouver l'œuvre qui pourra survivre à leur passion et bêtement leur plaire pendant les années à venir et pas s'effondrer comme ça au bout de 2 ans et être désaimé. Ça c'est génial, vous rencontrez des gens qui sont en fait des gens comme vous, et je trouve qu'au travers de ces expositions, ce qui est bien, c'est que on se rend compte que les œuvres qui se créent sont achetées par d'autres, elles sont montrées par d'autres, et ces autres sont en fait des gens comme nous, et c'est pour ça que c'est bien aujourd'hui d'avoir des gens qui sont collectionneurs qui ont la parole, et vous en aurez 3, 4, 5 selon le cycle, et vous vous rendez compte qu'en fait l'art n'est pas que l'art acheté par des grands industriels ou des grands financiers qui font ça très bien et qui nous le montrent dans des lieux sublimes que je fréquente, c'est aussi l'art acheté par des gens qui sont comme vous et nous. C'est-à-dire que c'est un art qui est compris par tout le monde, finalement. D'un point de vue de la médiation, tous les collectionneurs n'ont pas fait d'études d'histoire de l'art. Pour Michel, je ne sais pas.
Ce n'est pas le cas.
On se voit beaucoup, mais je ne sais pas.
Non, ça n'a jamais été le cas.
Et vous vous rendez compte finalement qu'en fait, ce qui est créé aujourd'hui parle à tout le monde. Et c'est quelque chose que vous pouvez tous ressentir. Et le premier acte de médiation, il est là. C'est-à-dire que voilà, en fait, ces gens-là l'ont acheté, l'ont aimé passionnément. Ils ont aimé des noms qui se retrouvent dans des grands musées aujourd'hui, des grandes galeries. Et ces noms-là qu'on vous présente, en fait, eh bien, regardez-les comme ils les ont regardés eux. Et ça va peut-être être les potentiels d'une passion et le début d'une relation avec une œuvre.
Mais... moi, je voudrais acquiescer tout à fait ce que dit Stéphane, encore que je me sens un peu plus janséniste qu'il n'est. Moi, j'ai eu l'impression, au fil du temps, d'avoir une passion forte, c'était celle de mon entreprise. Souvent on me dit ta vie ça a été l'art, non, ma vie ça a été l'entreprise, mais après le soir quand tout le monde était parti, je téléphonais à des amis ou des collectionneurs ou des galeries pour négocier des achats ou autre, et il y a eu des moments dans ma vie qui ont été un peu difficiles par l'absence. L'art a comblé cette absence. Et je me souviens de mes 50 ans, j'étais seul, j'étais veuf, je me suis acheté un Joseph Kossuth. J'ai passé une bonne cinquantaine, mes 50 ans ont été, je m'en souviens, d'abord parce que je le vois tous les jours, mais si vous voulez, c'est un peu compliqué à exprimer ce que l'on ressent vis-à-vis de l'art. C'est un élément éminemment personnel. Et c'est pour ça que j'aimerais, vous qui fréquentez régulièrement ces jeudis, que vous me disiez ce que vous avez ressenti sur ce que j'ai dit, même si c'est négatif, et au contraire, on pourra en discuter. Est-ce que vous avez ressenti quand vous avez visiter, si vous l'avez fait, l'exposition. Non, non, mais toi, ça ne marche pas. Non, mais attends. Tu es déjà à la maison, je ne vais pas venir ici.
Mais elle me parle à moi.
On l'a déjà dit.
Oui, mais non, mais
il y a quelqu'un d'autre qui.
Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti pour le coup, puisque je connaissais pas tous les collectionneurs. J'en connais certains parce que je travaillais avec eux, mais ça ressortait de manière plus prégnante encore.